Il est l'heure de retrouver l'émission Faites valser vos idées. Allez, c'est parti. Ça veut pas. Ah si, ça y est, on l'a.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Faites valser vos idées, l'émission qui secoue les méninges sans se prendre la tête. On commence de suite avec Lydia.
Bonjour à toutes et tous. Au menu aujourd'hui, les fast-foods au pays de la gastronomie. Eh oui, la restauration rapide en France a le vent en poupe. Plus d'un repas sur deux hors domicile est pris dans un fast-food. Près d'un sandwich sur deux est un burger. Et si notre jambon-beurre reste le sandwich préféré des Français, c'est que son prix moyen reste très attractif, environ 3,50€ contre 6,50€ pour un kebab et 12€ pour un burger. C'est rapide, pas cher, avec un bon petit goût de terroir. Là, c'est vraiment quand on mange sur le pouce. Si l'on veut s'asseoir à une table, on va choisir hamburger, bagels, burrito, wrap, sushi, pizza, tacos, kebab et autres pokeballs. En France, il y a environ 52 500 restaurants rapides. Ils étaient 13 000 il y a 20 ans. Et si le prix moyen d'un burger est d'environ 12€, c'est parce que l'on prend en compte les hamburgers servis dans les restaurants gastronomiques. Mais chez McDo, pour 6€, vous pouvez avoir deux sandwichs au choix, une moyenne frite et une moyenne boisson. Ça, pour les étudiants, évidemment, c'est pas cher. Bon, ils auront faim très vite après, mais c'est une autre histoire. La plus belle réussite de McDonald's en Europe, c'est la France. 51% des Français de 18 à 35 ans y vont au moins une fois par mois. Avec plus de 1589 restaurants, c'est sur notre territoire qu'ils sont le plus implantés. Par exemple, en Italie, ils ne sont que 150, pour vous donner une idée. Ils ne comptent pas s'arrêter là. D'ailleurs, en France, chaque coin et recoin de ici devra être à terme à moins de 20 minutes de route du fameux fast-food. Encore mieux ou pire, le McDo le plus rentable du monde est celui situé sur la plus belle avenue du monde, c'est-à-dire les Champs-Élysées, la malbouffe au pays de la gastronomie. Comment ont-ils réussi cet exploit? Déjà parce qu'ils ont eu les autorisations pour s'implanter en France, alors que même McDo doutait de pouvoir y parvenir. L'hamburger en France, ça va pas le faire. Du coup, ça les a motivés. Genre, si on réussit en France, on réussira partout. Ils se sont adaptés aux mœurs françaises, ils ont fait des décors plus sobres, pas de couleurs criardes, et des tables. En France, on apprécie de manger ensemble, les repas se doivent d'être conviviaux, les enfants aiment manger avec leurs doigts, et là c'est permis. Mais surtout, l'entreprise a décidé de ne pas nier ce qu'on leur reproche. Genre qu'ils font de la malbouffe et qu'ils écrasent les petits agriculteurs français. « Vous avez raison, disent-ils, du coup on va s'engager sur la qualité de ce que vous mangez. » Traçabilité, soutien aux agriculteurs français. Vous avez peur de l'américanisation? Vous avez raison, rétorque-t-il. Nous allons vous montrer que nous sommes une entreprise pour les Français. Proximité, ancrage dans les villes moyennes, emploi local, engagement dans le tissu social local. Vous avez peur que nous exploitions des salariés à travers des métiers durs et mal payés? Vous avez raison. Nous transformons McDo en ascenseur social. Chez nous, on peut commencer à la plonge et finir patron du restaurant. En gros, l'entreprise a décidé de jouer les alliés de ses détracteurs. Et ça fonctionne. Parce qu'évidemment, ils vont vous dire « nous sommes le premier recruteur en France » en omettant de préciser qu'il y a un grand turnover. 40% des employés chez McDo restent moins d'un an, 60% à peine 3 ans. Du coup, ça fait du monde à remplacer. Ils oublieront de vous dire aussi qu'un salarié chez McDo ne connaît jamais son planning à l'avance. Donc, pour les étudiants qui doivent passer des examens, ils doivent prendre un congé sans solde pour ce faire. Quant aux salariés non étudiants et à mi-temps, ils n'ont pas de possibilité de prendre un second emploi, étant donné qu'ils n'ont aucune connaissance à l'avance de leur disponibilité. Et la traçabilité de leurs produits? Ils suivent les consignes de l'UE. Rien de remarquable. Acheter local? Ça dépend en fait, vu qu'apparemment en France, on ne produit pas assez de bœuf. Du coup, ils en importent d'Irlande et des Pays-Bas. Bon, au moins c'est européen. Bientôt, en plus, ils vont nous dire que manger des aliments ultra transformés, riches en gras et en sucre, est bon pour notre santé. Si McDo réussit si bien en France, c'est parce qu'ils ont certes Ils sont certes très forts en marketing, mais surtout que de la famille modeste jusqu'au cadre supérieur, on les laisse transformer nos habitudes comme ils transforment leurs produits. Par exemple, on emmène de plus en plus nos enfants chez McDo pour leur anniversaire. On a oublié tout le fun qu'on pouvait avoir à décorer son chez-soi avec la complicité des petits pour l'occasion. On oublie que c'est fun aussi d'aller au marché et de cuisiner. On veut tout de suite, le plat avalé goulûment à n'importe quelle heure du jour, une satisfaction temporaire. Mince, on a de nouveau faim une heure après. Bah oui, ça c'est l'effet des glucides. Donc on remange et on devient obèse. C'est à nous, consommateurs, de reprendre les rênes, de se souvenir que de prendre le temps de cuisiner, de s'asseoir à table, plus d'une demi-heure pour son repas, fait partie de l'art de vivre à la française. En 2010, l'UNESCO décidait de classer le repas gastronomique des Français comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette catégorie, créée en 2003, a pour objectif de protéger les pratiques culturelles et savoir-faire traditionnels. Dans sa décision, le comité avait noté que la gastronomie française relevait d'une pratique sociale coutumière destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie des individus et des groupes. Car au-delà des plats, ce qui constitue le repas à la française, c'est la pratique sociale qui l'entoure. La convivialité, le plaisir du goût, le partage, l'association avec le vin, le lien au terroir. Le repas est en France plus qu'ailleurs un moment qui a lieu à heure fixe. À 12h30 chaque jour, plus de 54% des Français sont attablés. À titre de comparaison, la prise alimentaire équivalente au Royaume-Uni est à 13h10 et ne rassemble que 17% de la population. En France, au moins un repas par jour est pris en famille. Le repas français se caractérise également par le temps passé à table, l'ordre des mets, entrée, plat, dessert, le plaisir de dresser une belle table et bien sûr par les bons petits plats faits maison. Il ne s'agit pas d'interdire la restauration rapide, ni les plats venus d'ailleurs, mais de ne pas se laisser bouffer par la malbouffe et la consommation de masse. Et comme disait Coluche, quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas. C'était Super Tramp, Breakfast in America. Et maintenant, je passe la parole à Max qui va nous présenter nos deux invités.
Ah, on me lance pas, moi. Bon, pas trop fort, hein, quand même. Ouais, bah salut tous les gens, sur tous les bons. Ah, il y a un jeu de mots, vous avez capté, non? Bon, aujourd'hui, on accueille de l'humain dans notre escapade, histoire de savoir s'il y a encore du bon là-dedans. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions, ben faut goûter, faut curiosité, faut interviewer. Et donc, on reçoit aujourd'hui sur le plateau radiophonique de Radio Escapade... J'ai toujours rêvé de dire ça, le plateau radiophonique de Radio Escapade. Depuis tout petit, c'est un truc... je suis content, je l'ai fait, ça y est, je l'ai placé. Bon, donc on reçoit deux Larocois, c'est comme ça qu'on les appelle ?
Ouais, ah, exactement.
Ça aurait pu être pire, hein ? Ça aurait pu être, je sais pas, Laroquignol ou... Mais non, c'est Larocois. C'est donc ainsi qu'on nomme les habitants de Laroc. Un petit village de caractère, comme c'est marqué à l'entrée du village. Caractère avec un S. Petit village de caractère, ça sous-entend
ouais,
quelque chose,
dire. On peut ouais, dire ça. Fort caractère aussi.
Donc, qui sont parmi nous pour une intervention engagée, humaine, contre la machine capitaliste. Enfin, j'exagère là ?
Non.
Eh ben, c'est à vous alors, pour une petite présentation si vous voulez bien.
Merci. Alors moi, c'est Magali. Ma famille vient de Laroc. On est là depuis plusieurs générations. Mais moi, je suis partie un petit peu dans le monde entier. Donc j'ai vécu dans le monde entier avant de revenir à Laroc, le village de mes ancêtres. Et j'ai appris presque tout de suite l'implantation possible d'un McDo à Laroc. J'ai commencé à me battre avec toute une équipe qui est fantastique. Donc on est tous les deux là aujourd'hui, Thierry et moi, mais il y a un très gros collectif
moi,
qui s'est formé.
Et ouais, et Max aussi.
Il y a un très gros collectif qui s'est formé, on grandit, on fait plein de choses. Donc je vais laisser Thierry se présenter aussi.
Oui, donc voilà, je suis Thierry. Moi, je suis à Laroc depuis à peu près 8 ans. J'ai fait un peu pas mal de villes en France et je suis arrivé à Laroc. Ouais, petite ville de caractère, petite cité de caractère, en effet, où il fait bon vivre, où les habitants sont très, très accueillants. Et voilà, nous avons appris, ça nous est tombé sur le dos, là. Un beau jour, un McDo veut s'installer chez nous. Donc voilà, nous sommes une bonne équipe à vouloir lutter contre ce McDo.
Comme d'anciens chevaliers. C'est une cité médiévale, après tout.
Tout à fait.
Hein, donc, les belles pierres de cette cité médiévale, avec le petit McDo à côté, en contrebas, ça va être magnifique, on le sent.
Alors, je ne sais pas si vous savez, mais au temps médiéval, la restauration rapide existait déjà, parce que les gens n'avaient pas les moyens, notamment les pauvres. Il n'y avait que les nobles qui avaient une cuisine ou de quoi faire. Non, pas de micro-ondes, c'était... Mais non, ils n'avaient rien du tout dans leur maison, souvent qu'une seule pièce. Donc c'était un endroit où dormir. Donc ils mangeaient, il y avait plein de petites échoppes. Et ils mangeaient à l'extérieur. En fait, la restauration rapide, c'était ce qu'il y avait le plus. Alors c'était des tourtes, des gaufres et des crêpes. Alors sans sucre, hein, évidemment, parce que le seul sucre qu'ils avaient à l'époque, c'était le miel. Mais par contre, vraiment, du coup, c'était vraiment de la junk food. Parce que leurs tourtes... Il n'y avait jamais d'invendu.
Ouais,
donc vous imaginez qu'ils vendaient... Alors plus vous étiez pauvre, plus vous risquiez de manger des tourtes fourrées à la viande avariée. Mais du coup, je me disais, peut-être, étant donné que c'est une cité médiévale, Laroc, ils pourraient faire quelque chose des petites échoppes, s'ils veulent vraiment de la restauration rapide, à la façon médiévale, avec des produits frais, évidemment. On va pas
sans la marque McDo, évidemment.
Voilà. Donc il y a des choses à faire si c'est parce qu'on veut se nourrir rapidement et pas cher. Bon, des tourtes, ça coûte pas. Ah,
c'est vrai, j'ai vu, c'est dans Kaamelott.
C'est ça. Donc je sais pas si vous étiez au courant, mais on peut faire aussi ça. À l'époque, c'était comme ça. Les pauvres gens, les pauvres travailleurs et tout, ils n'avaient pas une cuisinière à la maison. Hein.
Là, il y a plein d'idées, en fait, parce qu'en fait, ça a commencé par un collectif, mais ça vire sur une association qui est créée, d'ailleurs, depuis peu, et qui prévoit de lutter contre d'autres formes de, comment dire, de colonisation capitaliste extrémiste. Oui, j'insiste sur ces mots-là, je sais, c'est pas bien, il faut pas, mais ben, voilà, c'est mon avis là-dessus, quoi.
Donc, si Amazon avait voulu s'implanter sur la zone industrielle de Laroc, vous ne seriez pas d'accord non plus.
On ne serait pas d'accord.
Et un château médiéval qui fait des crêpes à l'ancienne. Ouais.
Non, nous cherchons plus des petits commerces.
Mais le chaudron du Roc fait déjà des crêpes, très bonnes d'ailleurs.
Bah, tout à fait.
Hein ouais. Donc, voilà.
Ouais, ça pourrait nuire aux autres petits commerces. Enfin, il y a des chances que ça nuise aux autres petits commerces. Je ne suis pas sûr qu'ils seraient d'accord pour l'implantation du McDo. Hein.
Ben après, oui, parce qu'il y a eu quelques efforts de fait ces dernières années vers des commerces de proximité. Bon, la petite cité de caractère, on l'a déjà dit, le village médiéval. On a commencé à parler de petits commerces dans le village, un peu comme Saint-Guilhem, hein, le désert que tout le monde connaît. Il y a eu aussi un engagement dans la biodiversité, dans le végétal. On a deux grenouilles à La Roque, on est très fiers de nos deux grenouilles. Et puis bon, il y a nos petits restos, ouais, l'été, donc que tous les touristes trouvent hyper sympa quand ils viennent de Montpellier. Tout le monde s'arrête, ils mangent à côté de la rivière et tout. Alors ça, déjà, ça entraîne quelques problèmes. L'été, il y a beaucoup de monde. Ça veut dire que les poubelles débordent souvent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de détritus le soir sur la petite plagette de La Roque. Donc, il faut nettoyer. Il y a des bénévoles qui s'en chargent des fois, qui sortent pas mal d'emballages, de plastique et tout ça, de la rivière ou des berges de la rivière, tout l'été. Donc, là, on se dit que s'il y a un McDo qui arrive, qui s'installe, et que les touristes vont au McDo et prennent les plats emportés pour aller pique-niquer le long de la rivière, là, au niveau des chaises, ça va être complètement horrible.
Faudra renommer la rivière, hein, ouais. La rivière de merde avec la plage aux crottes, quoi.
Ça va changer
un peu.
Ouais.
Oui, non, mais c'est déjà catastrophique l'été. D'ailleurs, dans les Bartas, on trouve énormément de déchets. C'est catastrophique l'été déjà. Bon, l'effort qui est fait est sympathique, hein, c'est pas ça. Après, la politique, c'était de laisser l'eau monter pour que les déchets se retrouvent à veiller. Bon, est-ce bien raisonnable?
Les pauvres Biterrois, s'ils ont mérité ça.
C'est que ça a été pratiqué ailleurs, hein, ça doit marcher comme technique.
Non, mais ça a été pratiqué dans les Raux. Maintenant, peut-être qu'il y a une gestion un peu plus importante de l'affaire, mais moi, j'en ai vu des trucs dans les Bartas. Hein. Voilà. Bon, à l'époque, j'avais pas de smartphone.
Mais là, l'idée, ça serait quoi? Parce que la mairie, qu'est-ce qu'elle peut faire, en fait?
Alors, la mairie, pour l'instant, le maire peut réagir tout de suite en disant non au McDo, parce qu'on n'a pas de PLU à La Roque. Donc, en n'ayant pas de PLU, il peut dire tout de suite non, on ne veut pas d'un McDo.
Excuse-moi, tu pourrais préciser PLU?
PLU, c'est le plan local. Plan local d'urbanisme. Ouais. Et du coup, ça veut dire que nous, on voudrait de la transparence parce que le maire n'a pas dit non. Et quand les journalistes nous ont interviewés, ils ont interrogé McDonald's, qui leur a révélé que la municipalité était en fait en dialogue approfondi avec la mairie depuis quelques mois. Alors que le maire, dans ses communiqués, nous disait de ne pas s'inquiéter, qu'il n'y avait pas de dossier de déposé, tout allait bien. Voilà, donc on pense qu'il joue un peu sur les deux tableaux. Et pour nous, ce qu'on réclame, c'est de la transparence et de nous dire pourquoi vous ne dites pas non. Parce que ça a été fait dans d'autres villages. On s'est documenté, il y a un petit village à côté de Perpignan, Toulouse, où la mairie a refusé le McDo tout de suite en disant qu'ils avaient l'appui de leurs administrés, l'appui de la commune, et donc ils ont empêché le McDo de s'installer. Après, on nous a dit « oui, mais le maire, il risque une amende s'il fait ça ». Non, l'amende, elle a été pour Oléron, je crois, où ils ont refusé un McDo, mais en fait, ils avaient déjà un PLU, donc c'était contraire à leur PLU, et donc ils ont eu une amende. Mais nous, on n'en a pas. Donc, il peut refuser. Donc, c'est ce qu'on est en train de demander en ce moment. Pourquoi vous refusez pas?
Vous avez regardé d'autres villes où il y a eu des mobilisations, notamment au Rouret, je sais pas.
Oui, il y a eu au Rouret. J'ai eu de nouvelles adresses hier que j'ai communiquées pour les contacter. Mais il y a beaucoup de villes qui ont gagné le procès. Et ce que je voudrais rajouter aussi, on nous dit, mais de toute façon, pour l'instant, c'est qu'un projet, pourquoi vous faites autant de bruit? Mais justement, nous, on préfère agir avant que ça,
soit déposé. Parce qu'une fois que ça sera déposé, ça sera trop tard.
Voilà.
Donc, oui, effectivement. Et sinon, vous proposez un plan B, parce que, moi, en faisant mes recherches et tout ça, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a des villes, par exemple, il n'y a pas très loin dans le Gard, ils ont ouvert aussi un McDo dans une ville de quoi, 3000 habitants. C'est vraiment pas. Et ils étaient ravis, hein, tout le monde. Hein, il y avait que les restaurateurs qui n'étaient pas contents parce qu'ils ont perdu tout de suite du monde. Hein, c'est-à-dire que dès l'ouverture, même pour le café du coin. Bon, bah lui, il avait déjà décidé d'arrêter de faire le plat du jour, ça c'était fini, parce qu'il savait, hein, il avait compris, hein, il ne pouvait pas lutter au niveau des prix, parce que quand je dis qu'il y a un menu à 6 euros, oui, évidemment. Et bon, après les gens ont faim, donc c'est idiot, parce qu'ils vont manger beaucoup plus et ça va les rendre malades en plus. Mais bon, et puis, mais il disait, dès l'ouverture, les gens vont boire leur café là-bas maintenant. Alors, même le petit café matin au troquet du coin...
Mais c'est ça le problème, c'est aussi toutes les conséquences qu'il y a sur la vie sociale, et à long terme sur la santé, sur je sais pas, l'intelligence des enfants.
Mais oui, j'ai vu, apparemment c'est pas bon pour les neurones non plus, tout sucre, ce gras et...
Oui, mais nous, par cette action, justement, nous soutenons tous ces petits restaurants qui sont autour de nous, à Ganges.
Oui, c'est ça.
On a un exemple, quand Marie Brecher s'est installée à Ganges, les boulangeries ont beaucoup souffert. Elles commencent seulement à s'en remettre maintenant. Mais au début, ça a été très, très dur pour eux.
Mais après, voilà, il y a aussi, point de vue consommateur, bon, c'est comme... Pour mon papier, c'est ce que je disais, mais j'ai plein de gens qui m'ont dit « Non, mais c'est super pour les anniversaires. » Et pour les enfants, je dis, mais avant, on gonflait nos ballons, on allait avec le gamin au magasin, on faisait les trucs, c'était marrant. Attendez, maintenant on a des RTT et tout ça, on a plus de temps qu'avant pour préparer tout ça. Avant on y arrivait, maintenant on n'y arrive plus. Je dis pas une fois de temps en temps, moi je suis pas du tout contre, moi j'aime bien un kebab de temps en temps.
Non, comme quoi c'est aussi une façon de détruire les cultures, quoi, quelque part.
Moi j'aime manger asiatique, beaucoup, donc j'ai vraiment rien contre d'autres. Mais là c'est tellement de masse, cette histoire de 20 minutes, pourquoi être à 20 minutes d'un McDo et tout, non, je veux dire moi, de temps en temps, pourquoi pas, mais ça peut pas devenir un art de vivre, parce que c'est pas notre façon de vivre, et puis on mériterait plus d'être à l'UNESCO, patrimoine culturel, si...
Exactement, ça c'est ce que je dis toujours, on est à La Roque, on est dans les Cévennes, on est aux portes du Parc National des Cévennes, patrimoine classé à l'UNESCO, pour l'agropastoralisme, pour toutes les traditions ancestrales, la transhumance par exemple, mais aussi la culture des paysages cévenols, les châtaigniers, les oliviers, tout ça. Donc quand les gens donnent des arguments comme quoi « Ah ben ça sera super, je pourrais emmener mes petits-enfants au McDo » ou « Ah les ados, ils n'ont rien à faire à La Roque, ça serait bien pour eux d'avoir un lieu pour se rencontrer », ben moi je dis, mais on a quand même plein de choses à faire dans la région, quoi. Il y a beaucoup de choses. Moi, quand j'étais petite, ben, j'allais aux girolles, j'allais aux châtaignes, j'allais aux asperges, aux poireaux sauvages. Voilà, peut-être qu'on a besoin d'éduquer un petit peu les jeunes aussi à faire des choses comme ça. Mais aussi...
non, les jeunes, ils veulent du TikTok et du McDo.
Et ouais, c'est sûr, mais d'un autre côté non, aussi.
On prend les jeunes pour des débiles, c'est clair, quoi. C'est vraiment un truc.
Et le McDo, c'est pas une babysitter pour ados. Pourquoi on fait pas une maison pour la jeunesse avec, pourquoi on construit pas quelque chose de plus intéressant qu'un McDo, parce que limite, McDo, bah, ils vont manger là-bas. Alors après, j'en parlais aussi avec mon médecin, il n'y a pas très longtemps, il y a le côté addictif du McDo. Donc on dit, oh non, mais on n'ira qu'une fois par mois, ça ira, ça sera qu'une fois par mois. Mais en fait, une fois par mois, ça devient une fois toutes les semaines, et puis ça devient, ah ben j'ai pas le temps de faire dîner ce soir, allez, on va au McDo et tout. Donc le côté sucre, le côté tout ce qui est addictif et tout, ça... ça empire. Et franchement, l'obésité, on a plus d'un milliard d'obèses, je crois, dans le monde maintenant. La France est au 5e rang de l'obésité au niveau mondial. Ça fait peur quand même. Alors, c'est quand même un problème de santé publique. Alors, j'ai dit ça dans un de mes arguments. On m'a accusé d'être grossophobe, du coup. Donc,
oh, ils sont lourds.
C'était intéressant, j'ai bien ri. J'ai bien ri, mais par contre, voilà, ça, oui, la malbouffe, on peut en parler pendant très longtemps.
T'es pas grossophobe, t'es maladiophobe.
L'obésité, il faut savoir que ça entraîne l'insuffisance cardiaque, le diabète, l'hypertension. L'obésité est une première cause de décès prématuré en France. Ouais. Il y a plus de 15% d'obèses en ce moment en France, c'est estimé à 21% en 2030, ce qui fait un quart de la population. C'est quand même énorme.
Et nous ne l'aurons pas, c'est souvent les pauvres qui sont les premiers impactés, à cause des prix justement. Donc ce qu'on doit faire, c'est avoir des produits de bonne qualité, que tout le monde puisse manger correctement aussi.
Oui, tout à fait. Il faut réapprendre à cuisiner, il faut réapprendre aussi à faire ses courses.
Ouais.
Parce que souvent, on achète, y a des promos, ben, on va acheter en grande quantité, mais une partie va partir à la poubelle. Tandis qu'en apprenant à faire ses courses, pour acheter des produits peut-être un peu plus sains, mais en moins de quantité, on aura beaucoup moins de déchets.
Et puis, il faut dire aussi qu'on a déjà des burgers. On a un super restaurant à Ganges, le Burger Sevenol, qui a des produits de qualité, des produits locaux. Qui est, si on veut un burger, et ben on va au Burger Sevenol. Il y a aussi des snacks à Ganges. Il y a plein de choses proposées déjà. Donc, on n'a vraiment pas besoin d'un McDo dans les Cévennes en général. À la Roque, oui, mais dans les Cévennes.
Oui, mais la démarche est noble, mais comment dire, vous soutenez les petits commerçants, c'est bien, mais est-ce que les petits commerçants vous soutiennent ? La question.
Bah sûrement, parce que
oui.
Ils savent
oui.
Que...
Oui, nous sommes allés les voir, hein. Ouais. Tout à fait, oui. Heureusement.
Parce qu'ils savent très bien que ça va leur enlever aussi. On le sait, hein, il y a eu 66 000 restaurants français qui ont fermé en 2024. 66 000 Pendant ce temps-là, les McDo continuent d'ouvrir.
Ce qu'on appelle les bistrots de France ont des gros problèmes.
Maintenant, on va à Starbucks. Parce qu'apparemment, on veut boire du café avec de l'eau.
Et ça serait dommage de voir des initiatives. Enfin, moi, j'ai été impressionnée quand je suis revenue. Hein. Je suis partie pendant très longtemps. Comme j'ai dit, je revenais en vacances. Mais bon, quand je suis revenue m'installer définitivement à La Roque, j'étais impressionnée par toutes les initiatives locales, de producteurs locaux, des petits magasins, des coops agricoles et tout ça. Je me suis dit, waouh, c'est génial. Ça a bien augmenté ici depuis que j'étais plus là. Donc, de voir un McDo s'installer au beau milieu de ça, c'est complètement antinomique.
Une cité médiévale, ça fait un peu... C'est anachronique, non? Je ne sais pas.
Alors après, on nous dit que ce n'est pas dans la cité médiévale, c'est à l'extérieur, c'est juste à côté. Mais bon, c'est au milieu de nouveaux lotissements qui se sont construits ces dernières années à La Roque. Mais pareil, de nouveau, c'était en fait à l'origine une zone commerciale. Et puis, comme il n'y avait pas trop de preneurs, parce qu'on a Monsieur Bricolage et Intermarché, déjà pour un petit village, ça fait beaucoup. Donc, on a converti ces zones commerciales en zones résidentielles. Donc, des lotissements se sont installés. Il y en a 7 lotissements maintenant. Et de gens qui sont venus s'installer à La Roque, justement pour profiter du cadre de vie et de l'environnement de La Roque. Et maintenant, le problème, c'est que le terrain qui est au milieu de ces lotissements... c'est là où on veut installer le McDo, donc en plein milieu de cet lotissement et juste à côté de la cité médiévale quand même, avec vue sur la cité médiévale.
Bah déjà, de toute façon, l'enseigne Bricolage, la grosse enseigne là, rouge, avec l'Intermarché à côté, quand on monte en haut de La Roque, au point de vue de La Roque, pour voir un petit peu le paysage autour, bah, ça gâche tout. Donc on imagine avec en plus le McDo, en plus enfin, je sais pas quoi d'autre, etc., ça pourrait aller
la loin. Circulation. Ne parlons pas de la circulation.
Ne parlons pas de ça. D'ailleurs, on n'a plus trop le temps parce qu'on a plein d'autres choses à raconter pendant l'émission. Donc,
il va falloir en faire une deuxième.
On va clôturer, mais on en fera une deuxième. Il y aura un suivi. Il y aura un suivi, a priori, chaque mois, si vous êtes partant pour revenir.
Bien sûr.
Super.
Voilà. Et donc, je dois lancer une chanson, je suppose. Ah ouais, je lance Dialogue d'aveugle. En plus, c'est une chanson de mon groupe. Mon groupe qui s'appelle OSF, que vous pourrez retrouver sur YouTube, comme je dis chaque fois.
Là, je crois qu'elle se fait du cinéma.
Tu es celui que je crois.
Elle attend que je fasse des promesses. Faut qu'elle arrête, je sens le stress.
Quand tu me regardes, je fonds.
Au fond, je la sens pas, cette histoire. C'est que de l'amour transitoire. Et
palapa, palapa.
Découvrir.
Tu es ma drogue, je suis accro.
À quand la la cure de désintox, mais elle me touche, c'est le paradoxe.
J'aime te dire bonjour au matin.
Elle voudrait que je la choisisse, je vais faire un tour, faut que je réfléchisse.
C'était Dialogue d'aveugle d'OSF, et maintenant je lance, pas trop fort, notre spécialiste des chroniques musicales et cinématographiques, j'ai nommé Jean-Michel. Jingle.
Non,
pas. Qu'est-ce qui se passe?
Salut les loulous, t'as su qu'à tout le monde, ça va ou quoi?
Ouais,
j'ai rien entendu, ok.
Ouais.
Ok, ok, bah comme il n'y a pas assez de musique sur Radio Escapade, on va parler musique, alors faites valser vos idées. À vous de deviner de quel groupe ou de quel artiste je parle. Vous allez me dire, mais c'est un quiz
Mais c'est un quiz.
Ouais les amis, c'est un quiz. D'abord, on se met en condition, allez, on se concentre, on se détend les cervicales, on se prend un petit café, un petit thé pour les théistes, c'est pas l'heure de l'apéro, quoique. Détend les cervicales, Max, ça va le faire, ça va passer.
J'ai mal.
Alors, c'est un groupe de pop-rock fondé par Ron et Russell Mael à Los Angeles en 1968. Le groupe a notamment connu pour son morceau Destin is big enough for us. Excusez-moi, je bafouille. L'anglais et moi, c'est deux. Même trois. Paru en 1974 sur Kimono My House. Voilà. Donc, il est cité comme une influence majeure par des groupes d'électro-rock, de New Wave, de synth-pop comme New Order, Depeche Mode, et aussi par des artistes des groupes rock alternatifs comme Morrissey et Success and the Bad Cheese. Allez, à fond.
Is it now or
to you, now guide the evening. All to you, await a further signal. A look, a touch, a sign. Oh, can't you see the lady? All this waiting, wondering, a risky business. All this waiting, wondering, a risky business. All this waiting, wondering. Oh, can't you see the ladies lingering, lingering? This lady's lingering, and you cannot believe the reason why. Don't you know the lady?
C'était Lady is Lingering sur l'album Indiscreet de 1975. Madame s'attarde, monsieur aussi, mais c'est pas le moment. Il est temps de se secouer les méninges ou d'appeler l'intelligence artificielle. À tout à l'heure, hein. Pour l'instant, c'est à Jean-Pierre pour une histoire passionnante.
Dans les histoires de Jean-Pierre, il y a de la torture, il y a des meurtres et tout. Je sens que ça va saigner.
Mais là, c'est pas vraiment le cas, Max, mais... C'est parfois ça arrive. Bon, ne me trouble pas. Imaginez en 1555 un couple. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils vont se marier et leur union est promise à un bel avenir. Enfin, ça, c'est le conte de fées parce que la réalité est légèrement différente. 4 ans plus tard, le mariage est déclaré nul et le tout Paris s'amuse à suivre les aventures tragicomiques de ces deux tourtereaux. La dot de l'épouse lui sera rendue et son mari, le marquis de Langeais, devra s'abstenir de contracter un nouveau mariage. Quand je dis s'abstenir, il a plutôt l'interdiction de se remarier. Mais que s'est-il donc passé? La mariée, qui n'a pas encore 20 ans, se plaint des relations avec son conjoint. Marie de Saint-Simon n'est pas contente et raconte ses malheurs à sa tante. D'abord, il est encore plus dévot qu'un religieux. Il est grincheux et en plus, il est particulièrement jaloux. Mais la cause la plus importante, sans doute, c'est que le mariage n'a pas été consommé. C'est ce qu'elle racontera à son grand-père. Le marquis, si jeune, serait donc impuissant. Voilà la raison parfaite pour demander la nullité du divorce et retrouver la liberté. La famille, bien sûr, prendra fait et cause pour l'épouse et une procédure de 2 ans va suivre et va beaucoup amuser les Parisiens. Première étape, prouver la virginité ou pas de l'épouse en inspectant le matériel. Par des sages-femmes qui vont fouiller, Madame de Saint-Simon. Et la réponse est rapide. Alors l'épouse n'est pas vierge, son épouse est donc considérée comme une manipulatrice et lui comme sa victime. Victoire nette et sans bavure pour le jeune marquis qui se sent pousser des ailes. Il ne reste plus qu'à vérifier si le marquis peut faire le travail et pour ça, il faut s'accoupler en public devant des experts qui sont à côté du lit. C'est ce que l'on appelle l'épreuve du congrès. Alors on ne sait pas très bien, car les sources divergent, si c'est lui qui l'a demandé pour confirmer sa virilité ou si c'est elle pour obtenir la nullité du mariage et refaire sa vie. L'épreuve du congrès suscite dans le public parisien des moqueries, des chansons et surtout l'amusement général. Et puis vient le jour J. Et le marquis de Langeais exige des conditions avant de prouver qu'il peut faire travail de mari. D'abord, l'épouse doit prendre un bain pour neutraliser certains produits qui pourraient faire échouer l'accouplement, des produits qui resserrent les tissus. Elle doit aussi avoir les cheveux détachés pour qu'il puisse s'assurer qu'il n'y ait pas un talisman caché à l'intérieur. Alors que la préparation se poursuit, l'épouse rassure sa tante en lui disant « Soyez assurée que je reviendrai victorieuse, je sais bien à qui j'ai affaire. » Vient alors le début de l'épreuve et le marquis réclame des œufs frais, car c'est la garantie pour lui d'avoir un garçon. Des médecins, des chirurgiens, des hommes de loi, des sages-femmes, beaucoup de personnes sont réunies pour être témoins de la scène. Arrive le moment crucial et c'est un échec. Il avait pris des produits avant, il a eu très très chaud et il sue. Il va se lever deux fois pour réclamer des chemises propres. Avec le stress qui finit par devenir de plus en plus important, il s'énerve et il a besoin de prier. Son épouse lui rappelle alors sèchement qu'il n'est pas ici pour ça. Le temps passe, on finit par envoyer une matrone qui va dire l'assemblée... Mais
pendant tout ce temps, il est pantalon baissé en train de prier, etc. Là, rassure-moi.
Tu sais que j'étais pas là en 1655, Max.
Je suis en train de transpirer en imaginant la scène et en mettant à la place du mec.
Et laisse-moi terminer.
Ah la vache.
Alors je sais plus où j'en suis à cause de Max, vous voyez.
C'est fait pour.
Voilà, merci. Voilà, il m'a troublé, voilà. Alors, elle va dire à l'Assemblée qu'il ne s'est rien passé et le temps est parti pour l'épreuve est terminé. Le lendemain, c'est Mardi Gras et le tout Paris rigole. Mais la vie reprend son cours. Madame de Saint-Simon convole avec un autre homme qui va lui faire 3 enfants. Et quant au marquis de Langeais, lui aussi, il va s'enticher d'une autre femme que quelqu'un de cette époque décrivait comme maigre, vieille et noire. Mais c'est avec cette femme qu'il va avoir 7 enfants. En 1670, un événement survient. C'est le décès de Marie de Saint-Simon. Dans son testament, elle demande que le procès contre son premier mari soit terminé par accommodement, précise-t-elle. Et le mari, il est d'accord. Et il demande la révision de son procès. Et en 1675, son deuxième mariage va être enregistré légalement. Mais c'est justement là où il y a un gros, gros, gros souci. Car si le verdict du premier procès, rappelez-vous, c'était la dissolution du mariage, eh bien, si ce verdict est invalidé, ça signifierait que Langeais a été bigame et qu'il a cumulé 2 mariages. Mais si le verdict est confirmé, cela veut dire que les enfants de son deuxième mariage ont été conçus hors mariage puisqu'il avait l'interdiction de se remarier. Et donc, devant ce casse-tête chinois, puisqu'il n'y a pas de bonne décision, le tribunal choisit de ne pas choisir et de déclarer la requête de Langeais irrecevable. Et quant à l'affreuse pratique de l'épreuve du Congrès, vous savez, l'accouplement en public, elle sera abandonnée en 1677 après cette affaire.
Non. Là, je peux pas. Devant tout le monde, j'y arrive pas.
Même quand il y a personne, il n'y arrive pas.
Docteur, donnez-lui quelque chose.
Une banane.
Un genêt faible, peut-être.
Du Viagra.
Ça n'existe pas encore.
Une bonne saignée.
Oh bah déjà qu'il a plus de jus.
Bah, moi, ce qu'il me faut, c'est une moche, vieille et maigre. J'y ferai 7 gosses.
Si tu veux bien, quittons la rive, partons. partons à la dérive. Je te prendrai doucement et sans contrainte. De quoi tu peurs, allons, n'aie nulle crainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche. Quand me vient l'eau à la bouche, cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche.
Non, c'est à Jean-Pierre.
Oui, oui, c'est à moi. C'était Serge Gainsbourg avec l'eau à la bouche. Et tout de suite, Max, avec des fréquences très chaudes.
Alors, 102,0 cm à La Salle, 103,3 cm à Ganges-le-Vigon et 104,1 à Saint-Hippolyte-du-Fort. Je le sens bien là. Bon, il est temps de manger du théâtre. Hein, et pour ça, eh ben, y a mon petit texte que j'ai paumé. Non, non, pas de texte. Hein, et hop, je passe directement à la lecture, comme ça, ça ira plus vite.
Dis la fin, c'est bien.
Je dis la fin. C'est un texte de Sol. C'est pour faire la continuité avec la dernière fois. Sol, le clown qui s'appelle Marc Favreau. Donc je le fais. C'est parti. L'école, quand t'es tout petit, tu connais pas. T'es pas encore dans l'école. Tu t'amuses autour, tu joues dans le préscolaire. Tu suis seulement les cours de récréation. C'est drôlement agréable, mais ça dure pas longtemps. Hein. Un jour, tu te retrouves dans l'école. Et là, finis de faire tout ce que tu veux. C'est l'école primaire. D'abord, tu découvres une chose que tu connaissais pas. La discipline. Et c'est très énormément important. C'est avec ça que tu apprends, la discipline, tu vois. C'est comme un tuyau, on te branche ça dans l'entonnoir et tu reçois, t'entends des mots. Parce que à l'autre bout du tuyau, il y a un professeur qui arrête pas de parler et qui te remplit la crécelle tous les jours, jour après jour, jour après jour. Et un beau matin, que l'été se pointe le nez, ça y est, fini la discipline. Et tu pars en vacances. Tu penses que ça s'arrête là. Mais c'est pas si simple. Aussitôt que les feuilles commencent à démissionner des arbres, tu rentres à l'école pour des semaines et des mois et des mois et des mois et des mois. Et c'est comme ça pendant des années. Mais toi, sans t'en rendre compte, tu grandis tellement que ton école devient trop petite pour toi. Alors tu changes d'école. Et aussitôt que tu te retrouves dans ta nouvelle grande école, la première chose que tu apprends, c'est que l'école, c'est secondaire. Et voilà, c'est fini pour mon petit truc de théâtre. J'ai pas retrouvé mon papier. Ah si, il est où ?
Merci Max.
Voilà. Super.
Et tu t'auto-lances maintenant ?
Et je te lance ? Tu veux que je te lance ? Allez Jean-Michel, c'est à toi apparemment. Je relance Jean-Michel.
Non, crois-tu ? Alors, retour au quiz, vous imaginez bien que leur discographie est impressionnante. Fort de 25 albums studio, leur dernier album Mad est sorti en mai 2025, figurez-vous. Et c'est pas fini, avec au moins une trentaine de titres qui font partie de la bande son de différents films, d'innombrables concerts dans le monde entier, et quelques titres comme Funny Face, Nicotina, Moustache, Tarzan et Jane, et bien d'autres titres, bien sûr. Un groupe pop-rock américain, je vous dis. Alors, je vous donne un dernier indice, allez. En France, ils sont connus avec mon anglais Singing in a Shower Tonight avec les Rita Mitsouko.
I hope it doesn't show, it'll go away. It's just a passing phase, it'll go away. You can't dress nautical, learn to tie knots, take lots of Dramamine out on your yacht. But when you're all alone and nothing bites, you'd wish you'd stayed at home with someone nice. But when you think you made it disappear,
It's smaller now, it says, hey Joe, it's filled it out and you've got ice in your hands. You've got angst in your hands. But when you think you made, when you think you made it disappear, you sure you made it disappear and you still got angst.
Alors c'était Hangs in My Pants sur l'album Hangs in My Pants. Vraiment un anglais de merde. 1982. Alors j'ai l'angoisse dans mon froc. Si vous voulez écouter une bonne partie de leur production musicale, ben allez sur YouTube, c'est gratis. Bon, avec quelques pubs qui parasitent le truc, mais bon, cliquez sur skip pour passer les pubs et taper
moi j'ai trouvé hein, bien sûr
les Sparks évidemment okay. Et maintenant de suite c'est à Lydia.
Alors oui, d'habitude il y a une petite devinette, mais là on n'a pas trop le temps, je pense, donc je vais demander à nos guests de nous parler des prochaines manifestations qu'ils vont faire avec leur comité.
On va faire des quiz.
Alors, nous avons prévu plusieurs activités. Le mois prochain, on va essayer d'organiser un goûter. On a prévu aussi un concours photo. On a prévu une petite journée déguisée à faire des bons plats, des bons repas. On a prévu des
films. Déguisé en burger et on mangera du canard.
En gaulois irréductible.
En gaulois irréductible, tout à fait. Voilà, nous avons plusieurs projets en vue. Donc là, on aura besoin de Larocois et Larocoises pour nous donner des coups de main.
Et puis aussi pour suggérer, nous donner des suggestions aussi d'activités, ce qu'ils voudraient voir dans leur village et tout. Parce que le but de l'association, c'est pas juste qu'on est contre le McDo, c'est vraiment une association qui s'inscrit dans la durée. Pour mieux vivre à Larocque, pour créer des choses pour les jeunes, pour les ados, voilà, des nouvelles initiatives. Donc,
des joutes médiévales, des bûchers où on pourra cramer.
Sur les roues.
Des sorcières.
Des sorcières et des Ronald McDo.
Et puis, pour l'instant, on continue bien évidemment la pétition qui a plus de 2400 signatures en ligne. Quand même, c'est super. Par contre, le maire dit que ça n'a pas de valeur parce que ce ne sont pas que des Larocois. Donc, du coup, on a commencé une pétition papier qui a déjà des centaines de signatures aussi. Et cette pétition, on peut aller la signer aussi, ce lotissement des Soleillades.
Et on peut vous trouver sur les réseaux, j'imagine, aussi.
Exactement, il y a un nom au fast-food à Larocque sur Facebook. Tous les gens qui veulent nous rejoindre, on a des groupes sur WhatsApp aussi, donc tous les contacts sont sur le groupe de Facebook.
Très bien, merci. Alors, n'y a pas ma petite devinette, mais il y a mon petit proverbe chinois, vu qu'on a débuté ça cette année. Un imbécile qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis.
C'était Faites valser vos idées, et nous étions en direct avec mon anglais de merde. Merci à Magali, Thierry, Max, Lydia, Jean-Pierre et moi-même. Joyeux anniversaire à Redouane, big bisous à toute la familia. Merci à Fabien et le petit tout en régie pour la réalisation. À bientôt, bisous, merci, bisous.
Merci, bisous,
à bientôt.
Merci.